On remercie Pierre Roland d'être venu parmi nous ce soir. On est heureux de l'accueillir. Donc Pierre Roland est actuellement en recherche concernant les galériens, les prédicants, un peu les camisards, mais surtout galériens et prédicants. Et il a une formation à l'origine de géographe, cartographe. Il a beaucoup travaillé sur la question des camisards. Il a publié aussi sur cette question-là et sur l'histoire régionale en règle générale. Mais ce soir, il vient nous parler donc de ses recherches les plus récentes, et c'est ce que je trouve passionnant. Donc ça va être du frais, comme on dit, et il va nous faire découvrir aussi ses interrogations, sa méthode de travail, parce que je trouve qu'il a, là, il y a beaucoup aussi à apprendre, notamment du travail d'historien, et évidemment aussi tout ce qu'il trouve ou qu'il commence à trouver, et qui parfois remet en cause les affirmations de ses prédécesseurs qui, par manque de temps, manque de commodité matérielle aussi, eh bien, étaient contraints peut-être parfois à plus de généralisation et d'imprécision. Voilà, donc nous sommes heureux de l'accueillir et je lui laisse la parole.
Merci. Bonsoir. Merci d'être venus nombreux. Je ne m'attendais pas à ce que soyez aussi nombreux. Je m'attendais vraiment à une causerie au coin de, dans un coin de la librairie. Je ne connaissais pas la salle. Alors voilà, je suis arrivé à effectuer des recherches sur l'histoire protestante par un biais peut-être pas très commun. Je ne suis pas protestant, je ne suis pas chrétien, je suis complètement athée. Grâce à Dieu, disais-je à qui. Mais il se trouve qu'en 72, j'ai acheté un morceau de ruine en Cévennes, dans la vallée du Galaison, et puis que très très vite, j'ai voulu savoir où j'étais, ma maison, de quand elle datait, d'où ça venait, etc. Et je me suis mis à aller aux archives pour essayer de trouver des renseignements sur ce point. Alors sur ce point, j'ai jamais rien trouvé d'ailleurs, c'est extraordinaire, mais alors que j'ai trouvé sur pratiquement toutes les autres maisons de la vallée, sur ma maison, j'ai rien trouvé, mais c'est pas grave. Ce que j'ai trouvé quand même, c'est qu'il y avait, une histoire locale tout à fait passionnante et intéressante, et que très très vite on quittait le local pour arriver à l'histoire nationale. Là, c'était vraiment, on tirait un petit fil qui paraissait complètement anodin, et très vite, on se retrouvait en Angleterre, à Paris, aux galères, etc. Enfin, c'était tout à fait extraordinaire. Alors, de cette première période de notre ami Max Chaleil, l'éditeur des Camisards, vient en renfort. De cette première période de recherche sont sortis les deux petits bouquins, disons, d'histoire locale, dont celui que vous avez ici, Chronique des luttes religieuses en Haute-Cévennes, sur l'histoire de la vallée du Galaison, essentiellement la Mulhouse et Saint-Martin-de-Boubou. Alors, en effectuant ces recherches, très très vite, il y a une période qui m'a passionné, c'est la période des Camisards, et je suis tombé sur énormément de documents qui, ma foi, à mon grand étonnement, n'avait jamais été utilisé. Et c'est là que je me suis aperçu que la plupart des historiens des Camisards et du protestantisme en général, en fait, se pompaient les uns sur les autres depuis des dizaines d'années, voire des siècles, avec quand même quelques allègrements, y compris les erreurs, des erreurs très anciennes qu'on retrouve dans des bouquins, même récents. Avait quand même à signaler trois exceptions. Dans l'ordre chronologique, la première exception, c'est Bost, Charles Bost, et ses prédicants protestants. C'est ça qui est un travail tout à fait merveilleux, très sérieux sur le plan historique. Ça a été fait il y a presque 100 ans. C'était avant la guerre de 14, si je ne me trompe pas. Ça, c'est une réédition de notre ami Max. Ça c'est vraiment un travail fondamental et là entièrement original. La deuxième exception, c'est Gaston Tournier, les galériens de France et les galériens protestants au XVIIe et XVIIIe siècle. Là, un très gros travail et très intéressant travail avec des imperfections, mais attention, je reviendrai là-dessus. Les critiques que l'on peut faire, ça n'enlève pas la valeur de l'étude qui a été faite. C'était un précurseur. C'est certain que 50 ans après, c'est facile de dire, bon, il y a des erreurs, il y a telle et telle chose et tout, mais c'est grâce à ce genre d'ouvrage qu'on peut aller plus loin. Dans cet ouvrage, vous avez toutes les notices de Galérien qu'il a retrouvées, et il a eu le bon sens et l'intuition de les présenter avec presque comme en facsimilé. Vous le verrez après, où ça peut circuler. Ce qui fait que c'était les données de base qu'il publiait. Donc après, pour les chercheurs, c'est un truc qui est fondamental, hein, parce qu'on peut vérifier, et on peut aller plus loin, ce que je ne me suis pas privé de faire. Et le troisième, ben, il n'est pas ici parce qu'il est trop volumineux, le troisième historien qui n'a pas repompé les autres, c'est Henri Bosque, et sa volumineuse histoire de la guerre des Cévennes, encore publiée chez la réédition aussi, hein, de Tournier, c'était aux presses du Languedoc, première façon. Donc Bosque, Henri Bosque a passé sa vie, lui aussi, à rechercher sur les camisards. Il a passé sa vie dans les archives. Alors, c'est curieux, en réfléchissant, je me suis rendu compte, finalement, c'est trois pasteurs qui ont écrit ces trois bouquins. Et ces trois pasteurs, on sent où vont leurs sympathies, hein, c'est évident, comme les miennes d'ailleurs. Mais jamais, je crois qu'ils se départissent jamais d'une grande objectivité, contrairement à d'autres auteurs qui, n'étant pas aussi engagés dans leur religion, ont commis quand même ont manqué d'objectivité, disons, pour pas être méchant. Bon, alors, quand je me suis rendu compte donc de ça, et j'ai été rechercher tous les documents à la base de l'histoire des camisards. Alors c'était relativement simple, ça paraît un gros travail, mais c'est relativement simple parce que c'est une période qui est très courte. Et puis les centres d'archives, on en a relativement vite fait le tour. Donc j'ai pu le faire relativement assez vite, et c'était surtout ce qui était intéressant, c'était, j'ai commencé à travailler sur ce dictionnaire en 88, il a été publié en 95, et c'était les débuts de la micro-informatique et de la micro-informatique personnelle. Donc c'était l'occasion de tester un certain nombre de logiciels qui m'ont été d'une très très grande aide pour faire ça, en particulier des logiciels des tableurs type Excel ou des logiciels de base de données, qui ont été, je trouve que c'est un instrument formidable. Ça, l'informatique et ses logiciels, c'est un instrument formidable pour la recherche historique. Parce que l'esprit humain, même aussi puissant soit-il, ne peut pas emmagasiner plus d'un certain nombre de données. Quand on travaille sur des petites fiches, il faut toujours un certain temps, quand vous voulez faire un tri manuel, par exemple par ordre alphabétique ou par chronologique, etc., il vous faut matériellement une demi-journée pour classer vos fiches. Hein, avec Excel, vous faites ça, c'est avec un clic, en 3 secondes, vous avez votre classement. Bon, il y a un progrès, c'est du temps libéré pour faire autre chose de plus intéressant. Alors, le deuxième progrès fondamental pour moi, ça a été la photo numérique. Pendant les 20 premières années de mes recherches, quand j'allais dans un centre d'archives, je passais mon temps à gratter le plus vite possible ce que je lisais, parce que je ne le garderais pas en mémoire, donc il me fallait une trace de ce que je lisais. Quand c'était tout à fait intéressant, je le faisais photocopier, avec des limites financières, mais enfin j'ai fait quand même quelques milliers de photocopies dans les centres d'archives. Mais on ne peut pas tout photocopier. Maintenant, avec la photo numérique, quand les centres d'archives, la plupart des centres d'archives l'autorisent, vous permet très rapidement et à un coût voisin de zéro d'emmagasiner toutes vos données. Alors ça, c'est très important, parce que quand vous prenez vos données sur votre cahier, vous avez un nom, par exemple, que vous n'êtes pas sûr de l'écriture. C'est pas évident, vous le lisez d'une certaine façon. Il est écrit comme ça définitivement sur votre cahier. Si vous retombez sur un nom approchant un an après dans un autre centre d'archives, etc., vous n'allez pas, approchant mais pas le même, vous n'allez pas faire le lien facilement avec celui-là, et vous n'allez jamais pouvoir vérifier si ces deux personnes ne sont pas les mêmes. Tandis que là, si, avec la photo, vous avez toujours le document disponible chez vous et si vous vous y prenez bien, consultable facilement. Je dis si vous vous y prenez bien parce que c'est rien à part les photos. Si c'est pas classé, si c'est pas ordonné, si vous retrouvez pas ce qu'il y a dedans, ça sert à rien. Vous pouvez bien en avoir des millions, ça sert absolument à rien. Donc, alors ça, c'est là le plus gros du travail. Le gros du travail, c'est pas tant de prendre les photos que de les rendre utilisables, c'est-à-dire de pratiquement pour chaque dossier d'archives, de faire un inventaire. Là encore, je le fais sur informatique, sur tableur Excel, un inventaire donnant les faits que l'on trouve, les endroits où ça se passe, les noms des gens qui sont concernés, etc. Donc, en abrégé, si vous voulez, telle page, telle photo, il y a telle chose, ou telle série de pages, ou telle série de photos, on a le procès du prédicant Serre. Ce prédicant Serre a parlé de trois ou quatre personnes importantes qui sont citées, ça se passe à telle période, il a été pris à telle occasion, etc. Vous voyez, tous les éléments essentiels que l'on trouve dans les archives sont notés. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous savez qu'on peut très facilement rechercher dans tout un micro-ordinateur, dans tout un micro-ordinateur aussi vaste soit-il, on peut rechercher un nom en quelques minutes. Si vous cherchez Serre, vous mettez Serre, vous avez tous les textes où Serre est cité, à condition que ça soit écrit de la même façon. Donc pour le chercheur, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Bon, bref, parce que je ne vais pas m'éterniser là-dessus non plus, on en causera éventuellement si ça vous intéresse. J'ai commencé à photographier systématiquement donc tout ce qui concerne les résistances huguenotes en Languedoc au sens large, c'est-à-dire avec l'Ardèche, avec le Haut-Languedoc et maintenant avec le Dauphiné, parce que le Dauphiné était séparé administrativement de l'Ardèche, du Vivarais, mais quand même très lié parce que les communications se faisaient par le Rhône très, très facilement. Donc j'ai inclus récemment dans le champ de mes recherches le Dauphiné, c'est-à-dire essentiellement la Drôme et l'Isère actuelle. Donc, je photographie tous les documents d'archives qui se rapportent à ces résistances huguenotes et à la répression de ces résistances. Actuellement, dans la période 1683, donc un peu avant la révocation de l'édit de Nantes, jusqu'à 1715, c'est-à-dire à peu près le moment où les églises protestantes vont se reconstituer dans la clandestinité. Après, plus loin, on verra si j'ai encore du temps pour le faire. Je photographie donc toutes ces archives. Dans les différentes archives départementales où il y a des dossiers intéressants, aux archives nationales, aux archives de Vincennes à la guerre, à la bibliothèque de la Société d'histoire du protestantisme, où il y a un fonds Cévenol extrêmement riche, les registres des galères à Toulon, là aussi c'est extrêmement riche, vous avez une cinquantaine de volumes gros comme ça et larges comme ça, qui sont les registres même des chiourmes. On inscrivait les galériens à chaque fois qu'ils arrivaient, on leur donnait un numéro et on les inscrivait là-dessus. Et puis également les papiers courts de Genève, puisque le pasteur Courte, qui est donc celui qui a restauré le protestantisme après la guerre des Camisards, le pasteur Courte était historien, a sorti un excellent un des premiers livres sur la guerre des Camisards, qui a été réédité d'ailleurs par Max, avec une préface, avec des notes, un appareil de notes et une préface de Patrick Cabanel. Et donc, dans ces papiers courts, il y a 140 volumes. Je ne les ai pas photographiés parce que j'avais commencé à les photocopier et je dois avoir 500 photocopies seulement. Mais vu qu'ils les faisaient très cher en francs suisses, c'était quand même assez embêtant. Maintenant, elles sont sur support, pas sur support numérique, mais elles sont sur microfilm. Alors, je ne sais pas quand, il faut que j'y retourne, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Donc, je photographie tout ça. J'en suis à 80 000 photos en 3-4 ans. Et je commence à me poser des questions parce que j'ai plus le temps. Je passe tellement de temps à photographier que j'ai plus le temps de suivre, de faire mes inventaires et surtout plus le temps de suivre, de les exploiter, c'est-à-dire d'en tirer le contenu, quoi, de voir ce qui est intéressant au point de vue contenu. Alors, au point de vue contenu, en particulier, je fonctionne en faisant ce qu'on appelle des bases de données. suivant les thèmes, je mets sur informatique tous les renseignements que je peux avoir sur les individus que je rencontre. Par exemple, sur les galériens, eh ben, je suis parti du bouquin de Tournier et j'ai fait une base de données où il y a 2000 fiches, 2000 galériens qui sont fichés. Et que j'essaye de compléter. Bon, de la même façon, j'ai les galériens, j'ai les assemblées, j'ai inventorié à peu près entre 1685 et 1715 à peu près 150 assemblées du désert. Bon, il y en a eu beaucoup plus, hein, assemblées clandestines, mais ma foi, c'est que celles qu'on a connues, c'est-à-dire celles la plupart du temps qui ont été interrompues par les militaires, hein, et suivies d'un procès. J'ai également des bases de données sur les prisonniers, alors depuis les toutes petites prisons comme Saint-Jean-de-Gardelinc ou Saint-Jean-du-Gard, ou le Fort d'Alès, ici on est bien placé pour en parler, mais aussi les plus connus comme la fameuse tour de Constance actuellement. J'ai les fiches sur 500 prisonniers et prisonnières, parce que on parle souvent des prisonnières de la tour de Constance, mais les prisonnières, des femmes seules, n'y ont été qu'à partir de 1715 ou 1712. Toute la période avant, 1686-1712, il y avait un étage pour les hommes et un étage pour les femmes. Donc pour le moment, j'en ai repéré 500, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qui avait été... ce qui avait été publié jusqu'à maintenant dans le bulletin de la Société d'histoire de la protestantisme, et à chaque fois avec des renseignements conséquents sur eux. Les déportés en Amérique, ben ça vous le savez peut-être pas, mais après la révocation de l'édit de Nantes, pour se débarrasser des opiniâtres, de ceux qu'on appelait les opiniâtres, c'est-à-dire de ceux qui voulaient conserver leur religion, l'intendant Baville, qui était celui qui dirigeait la région Languedoc, hein, si vous voulez, le grand Languedoc, puisque ça comprenait Toulouse, celui qu'on a appelé souvent le roi du Languedoc, hein, avait rien trouvé de mieux que d'envoyer donc les plus dangereux peupler les Antilles. Alors il y avait un double intérêt, il se débarrassait de ceux qui l'embêtaient, ils aidaient au développement, ils devaient aider, parce qu'en fait ils ne l'ont pas fait, ils devaient aider au développement de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. Et c'était important parce qu'il y avait les Anglais qui s'implantaient très fortement et on était en bisbille permanente avec eux. Et alors ça, pendant un an, il y a eu 500 Cévenols, Ardéchois et puis quelques autres qui ont été déportés en bateau. Alors ça a été effroyable parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient et tout le monde, il y a des bruits qui couraient qu'on allait les noyer en mer. Carrément. Et en fait, c'est presque arrivé, puisque un des bateaux, il y a eu 5 ou 6 bateaux en tout, un des bateaux a fait naufrage en arrivant à la Martinique, et pratiquement une bonne partie des protestants qui étaient transportés ont péri dans le naufrage. Alors, ça s'est arrêté très vite. Pourquoi ? Eh bien, parce que très vite, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que, alors, d'abord, il y en a beaucoup qui mouraient en route, bon, ça... Ils auraient été débarrassés au moins, mais leur problème, c'est que le problème aux autorités, c'est qu'une fois arrivés, comme ils étaient dans des îles qui étaient relativement où la religion était relativement bien tolérée, la religion protestante était tolérée, il y avait déjà une implantation protestante ancienne dans ces, donc des gens qui étaient prêts à aider ceux qui arrivaient. Et surtout, il y avait un va-et-vient continu entre les différentes îles, de contrebande, des petites barques qui passaient d'une île à l'autre, etc. Tous ceux qui voulaient partir sont partis immédiatement. Et ils sont partis, ils ont gagné des îles anglaises ou hollandaises, hein, et résultat, ils se retrouvaient... La plupart, ils avaient été envoyés en Amérique parce qu'ils avaient été pris pour partir de France, parce qu'il était, après la révocation de l'édit de Nantes, il était interdit de partir de France. Donc ils se faisaient ramasser aux frontières, ils se faisaient envoyer en Amérique, et en Amérique, ils avaient toute possibilité d'aller en bateau en Hollande ou en Angleterre, et gratuitement, parce que c'était pour la foi, en solidarité, tout le monde les faisait passer. Alors, il y en a même quelques-uns que j'ai retrouvés qui sont revenus en France clandestinement et qui sont signalés dans des lettres de l'intendant, etc. Et il y en a au moins un qui est condamné aux galères, qui est revenu de Martinique, et qui a été, je dis Martinique, mais on disait à l'époque, on disait d'Amérique, hein, on disait les îles de l'Amérique, et qui a été condamné par la suite aux galères. Alors, je suis amené aussi à faire des bases de données sur un peu plus large, sur, alors, une base de données sur les prédicants et tous ceux qui ont eu affaire à la justice pendant la période 1685-1715. Et alors, c'est là que je me pose aussi des questions, parce que l'idée au départ, c'était de faire un peu le dictionnaire des Camisards, mais sur une période plus vaste. J'ai bien peur qu'au lieu de 3000 notices, comme il y a dans ce bouquin, il y en ait 15 000. Alors, je me demande si ça vaut le coup de continuer et tout. Pour le moment, j'en suis là. Alors, vous allez me dire, et puis je vais m'arrêter là, pourquoi vous faites tout ça pour aboutir à quoi? Alors, moi, ce que je voudrais faire en priorité, c'est un atlas. Parce que je suis géographe de formation, historien, mais je suis également cartographe. J'ai été cartographe de métier toute ma vie. Et donc, j'ai toute facilité pour faire des cartes. Et j'aimerais faire un atlas de ces résistances huguenotes et de leur répression, donc qui comprennent tout ce que je viens de vous dire, les assemblées, la déportation en Amérique, les galériens, etc. Bon, essayer de réunir tout ça en cartes. Alors là, j'ai amené quelques cartes que j'ai commencées. Il y aura par exemple des cartes administratives. Vous ne voyez pas bien loin, mais vous pourrez les voir après. Ça, c'est une carte en noir des départements actuels. Et les couleurs, c'est les diocèses. Donc, c'est des diocèses religieux, hein, mais à l'époque, ce n'était pas l'État laïque. Hein, c'était l'unité administrative de base. C'était le diocèse de religion. Les villes que l'on a marquées ici, c'est les chefs-lieux de diocèse, c'est-à-dire les évêchés. C'est là où il y avait les évêques. Alors, bon, tout ça pour faire un cadre, si vous voulez, général à cet atlas. Et puis après, la question que je me suis posée, et qui est une question importante sur laquelle butaient pas mal, depuis pas mal d'années, les chercheurs, c'est de savoir, en 1700 ou autour de 1700, qui était protestant et qui n'était pas. Alors à l'époque, ce n'était pas des communes qu'on avait, c'était des communautés ou des paroisses. On peut utiliser les deux termes. Donc, ce qui était intéressant, parce qu'il y a plein de choses au niveau de l'analyse qui peuvent en découler par la suite, c'était d'essayer de faire une carte du pourcentage de protestants dans chaque paroisse pour l'ensemble de la zone étudiée. Alors pour ça, j'ai eu l'idée de cette carte parce que j'avais eu la chance de trouver des sources qui étaient peu connues, aux archives nationales en particulier, et aux archives de l'Hérault, par communauté, et au moment de la guerre des Camisards, et bien, il s'agissait du fichage des communautés, hein, pour savoir celles qui étaient dangereuses ou pas. Donc, on faisait les curés, essentiellement, faisaient le décompte de leurs administrés, si on peut dire, en notant tant de catholiques, tant de protestants, tant peuvent s'armer, etc., tant sont dangereux. Enfin, c'est des documents assez divers et tout, mais l'ensemble, j'ai mis ça dans une base de données, et l'ensemble m'a permis de construire une carte qui m'a époustouflé quand elle est sortie par sa cohérence. Parce qu'on s'aperçoit là, en très rouge, très foncé, c'est toutes les zones qui sont quasiment que protestantes. Et pour ceux qui connaissent, là, il n'y a pas les noms des communes, parce que bon, j'ai pas eu le temps de fallait faire une grande carte avec les noms des communes, hein, j'ai pas eu le temps d'affaire. Mais pour ceux qui connaissent bien, vous verrez que même actuellement, c'est là où on trouve encore les temples, etc. C'est qu'il y a une persistance qui est assez extraordinaire, et il y a une cohésion géographique. En tant que géographe, ça m'a stupéfié. Bon, bref, voilà. Alors, bon, j'avais fait d'autres cartes sur la guerre des Camisards, comme celles qui ont été publiées, qui ont été dans le dictionnaire des Camisards. J'avais fait pour une exposition une autre carte sur la guerre des Camisards que vous pourrez voir, etc. Donc, petit à petit, j'essaye de construire cet atlas. Bien sûr, il y aura un texte avec des graphiques, etc. Parce qu'il y a aussi, et je m'arrêterai là, cette fois c'est pour de bon. Mon travail en cours. Actuel sur les galériens, qui ont donné lieu à un certain nombre de graphiques. Là, par exemple, c'est l'évolution par année, ça c'est 1685, 83, après 85, pratiquement jusqu'en 1764, le dernier galérien est libéré. Donc on voit que c'est quand même toute la grosse période de Louis XIV, hein, où, avec des hauts et des bas, où les protestants ont été envoyés aux galères. Alors ça, j'ai fait des graphiques avec les raisons pour lesquelles ils ont été envoyés aux galères, etc. Et par la suite, là j'ai juste un brouillon, par la suite il y aura bien sûr des cartes, ça c'est une carte de la France entière, avec l'origine d'où étaient les galériens protestants. Donc on s'aperçoit qu'ils sont bien sûr très concentrés sur les Cévennes et le Bas-Languedoc, mais également l'Ardèche et la Drôme. Par là. Et puis des petites régions, la Saintonge, le Poitou, quelques villes, etc. Donc on arrive maintenant à les repérer avec un gros travail parce que très souvent les noms étaient mal écrits sur les registres. Donc il fallait trouver d'où venaient ces gens-là. Et c'est là que l'intérêt de mélanger les archives, c'est-à-dire de croiser les archives, c'est là que c'est intéressant parce que ce qu'on ne peut pas lire sur les registres du bagne, par exemple, et bien, si vous arrivez à retrouver le galérien qui est au bagne, si vous arrivez à retrouver son procès, le nom de lieu, là, vous arriverez à le lire correctement. Donc c'est très important de croiser, sur le plan historique, de croiser les différentes sources. Voilà, j'arrête parce que je suis à votre disposition pour tout ce qui
explique aussi que souvent, justement, l'histoire et la recherche historique évoluent, parce que quand on s'interroge sur l'histoire, ou ceux qui commencent à s'intéresser un peu à l'histoire, se demandent pourquoi finalement on peut encore découvrir des choses.
Bien sûr.
On se rend compte que par exemple Tournier ici, comme vous disiez tout à l'heure, n'a travaillé que sur un type d'archive. Donc ce qu'il a établi comme facsimilé, en fait, il n'a jamais pu comparer avec ce que Pierre Roland est en train de faire, par exemple les archives des procès, et ainsi de suite, et ce qui permet à Pierre Roland de croiser ses archives, entre les archives du bagne, les archives des procès, d'autres fonds d'archives, et d'un seul coup, on découvre finalement qu'un galérien qui avait été considéré comme protestant par Tournier ne l'est pas.
Pareil,
ce que vous disiez tout à l'heure.
Alors, dans les galériens protestants de Tournier, il y a un certain nombre de catholiques, alors qui sont soit parce qu'il a cru à tort. Rien ne disait qu'ils étaient protestants, mais je ne sais pas pourquoi, ou il les a mis là-dedans, je ne sais pas pourquoi, il ne le dit pas. Donc ça, j'en ferai une catégorie à part. Et puis d'autres qui ont été envoyés aux galères, qui n'étaient pas protestants, qui étaient catholiques, mais qui ont été envoyés aux galères, soit pour avoir aidé les protestants, par exemple les guides pour sortir de France. Il y avait très vite, il y a eu des guides qui, moyennant en finance, arrivaient... établissaient des chemins par les montagnes, etc., des chemins assez sûrs, pour aller sur la Suisse. Hein. Et ben ces gens-là, ils sont, à juste titre, ils sont répertoriés dans les galériens par Tournier, mais ils devraient être mis dans une catégorie, il faut les mettre, surtout si on travaille sur le plan statistique, il faut les mettre dans une catégorie à part, parce qu'ils ne sont pas protestants. Et puis alors, je dois dire, c'est un des gros problèmes quand on est aux archives, et ça, Tournier n'y a pas échappé. En plus, il y a une circonstance atténuante aux petites erreurs et aux grosses erreurs qu'on a pu trouver dans Tournier, c'est que c'est pas lui qui a terminé son travail, il est mort après la publication, il y a trois volumes en fait, ça a été regroupé en deux pour la réédition, mais il y a trois volumes, il est mort après la publication du second, et c'est Edmond Hugues qui a débarqué là-dedans et qui a fini. Donc il aurait eu quelques années de plus, je pense qu'il aurait peut-être pu... faire quelque chose de mieux.
C'est un des fondateurs du musée du désert,
exactement. Et alors, en plus, moi, je ne lui jette pas la pierre. Je me suis aperçu, on peut pas tout lire. Les registres des galères, j'ai dit que c'était des grands trucs comme ça, il y a 60 000 galériens qui sont recensés. 60 000 où il y a à peu près 5 ou 6 lignes de notices. Y compris des abréviations, parce que le scribe, là, il en avait marre d'écrire. Alors, par exemple, il décrivait physiquement le galérien, parce que s'il s'évadait, il n'y avait pas de photo, hein, il fallait essayer de le retrouver. Donc, il marquait, au lieu de mettre cheveux châtains, il mettait CC. Grande taille, GT, etc. Il y avait tout un code. Il y a tout un code. Alors, des fois, vous avez une ligne de... Et puis, de temps en temps, vous avez RTR. Religion prétendue réformée. Alors, quand vous lisez ça un petit peu rapidement, moi, le père Tournier, si ça se trouve, parce que moi c'est pareil, hein, au bout de 2 heures, 3 heures, vous lisez vos trucs, parce que, à attention, j'ai dit il y en a 60 000, il y en a en général 6 par page, ça fait 10 000 pages si je me trompe pas. Bon, ben 10 000 pages à feuilleter, à lire, et surtout que sur ces 60 000, il n'y en a qu'autour de 2 000 galériens protestants qui vous intéresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des pleines pages de désertion, homicide, inceste, vol de grand chemin. Pour les prêtres, il y a plein de prêtres. J'ai découvert qu'il y a plein de prêtres à débaucher ses paroissiennes, etc. C'est très rigolo, quoi. Mais c'est répétitif, hein. Et puis des fois, on s'accroche sur des trucs qu'on cherchait pas. On lit des notices en détail parce qu'on les trouve marrantes. Et puis à côté, vous sautez le RPR qui vous aurait permis de repérer un nouveau galérien protestant, quoi. Voilà, je suis à votre disposition.
Voilà, donc si vous avez des remarques, des questions, des analyses, n'hésitez pas à ce moment.
J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'à la cathédrale d'Uzès, on a dû construire des tribunes pour accueillir les protestants convertis au catholicisme. Alors quand vous dites celui-là était catholique, celui-là était protestant, est-ce que c'est quelque chose de facile à établir? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des gens qui étaient le jour
de... Alors, c'est très simple, sur le plan administratif. Quand on parle d'un catholique d'origine, hein, on parle d'un ancien catholique. Ça, dans tous les textes. Et quand c'est un converti, donc un ancien protestant, on dit c'est un nouveau converti. Donc NC, ouais, en abréviation NC. Donc là, il n'y a pas de problème. Et quelquefois, s'ils ne se sont pas convertis, là, quelquefois, on a anciennement de la RPR. Et quand ils ne se sont pas convertis, c'est noté, parce que c'est encore plus grave qu'ils ne se sont pas convertis, c'est-à-dire qu'ils ont échappé à tout. Donc là, c'est noté, ce prétendant protestant, ce prétendant réformé, etc. Non, je crois qu'il n'y a pas de... On n'a pas ce problème.
Vous pouvez imaginer que quelqu'un, sous la pression, par crainte...
Tous attention, presque tous.
Veuille sauver sa vie, si c'est catholique,
tout à fait.
Et continue à fréquenter une assemblée sans le dire.
C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Pratiquement toutes les communautés protestantes se sont converties en bloc quand les dragons sont arrivés. En bloc. C'est-à-dire qu'on a, le cahier du curé, si vous avez le registre du curé, et il dit le 15 octobre, et sont venus abjurer l'hérésie du Calvin, parce que c'est comme ça que c'était rédigé, hein. Et puis toute la liste des gens. Puis le lendemain, pareil, nouvelle liste. Sur le lendemain, nouvelle liste. Puis après, encore quelques-uns. Et puis après, bon, on s'aperçoit que pratiquement tout le monde a abjuré. Sauf quelques individus qu'on a appelés les fugitifs. Ça, dans les textes, c'est le terme qui est employé dans les textes. Et fugitif pouvant signifier deux choses, soit qu'ils étaient partis à l'étranger, soit qu'ils avaient pris le maquis, qu'ils étaient dans les bois, et c'est ceux-là qui ont formé des cadres, des assemblées clandestines, etc. Mais ceux qui allaient aux assemblées clandestines, la plupart, avaient abjuré leur foi. Oui, là, il n'y a pas de... Oui, bien sûr, ce qui est tout à fait... Ah ben, pour moi, ils sont protestants, hein. Ils sont nouveaux convertis. Nous, pour moi, nouveau converti égale protestant, hein. On est obligé de faire des catégories. Alors, ce que vous dites sur l'église d'Uzès, c'est tout à fait intéressant. Et ça a posé de gros problèmes en Cévennes, parce qu'en Cévennes, il y avait de toutes petites églises et des grands temples. Et donc, on a démoli les grands temples. Mais la toute petite église ne pouvait pas contenir. Les habitants étaient obligés d'aller à la messe, mais il n'y avait pas le local pour qu'ils viennent à la messe. Donc toutes les églises du Bas-Languedoc et des Cévennes de Mende ont été agrandies aux frais des protestants après la révocation de l'édit. Et là, pour beaucoup, on a encore les dossiers avec les plans d'agrandissement, etc. Ce qui n'allait pas sans poser problème, parce que des fois, ça affaiblissait le gros œuvre. Et bon, à Saint-Martin-Goubeau, par exemple... L'église, c'est après restauration et tout, au bout d'une centaine d'années, elle s'est écroulée, quoi.
Est-ce qu'on connaît l'origine sociale des galériens? Est-ce que parmi les galériens, il y a des gens qui ont écrit des mémoires?
Oui.
Qui ont fait un récit, qui ont entretenu éventuellement une correspondance? avec l'étranger pour demander des soutiens, oui, ou avec leur famille?
Alors, catégorie sociale, pour le moment non, mais j'espère pouvoir le faire. Ça, puisque on a pratiquement pour l'ensemble, on a le métier, la catégorie sociale. On a énormément, mais ça se retrouve dans toute la, ça se retrouvait dans le dictionnaire des Camisards, ça se retrouve dans toute la population protestante. On a énormément d'artisans, mais on a des marchands, des bourgeois, quelques nobles. Et alors sur mais ça, là, pour le moment, je ne peux pas en dire plus, parce que ça, je ne l'ai pas exploité du tout pour l'instant, mais c'est une exploitation que je ferai. Pour les écrits, oui, on a des écrits merveilleux. On a les, y a un des galériens qui s'appelle Marteille, qui était de Bergerac, qui était un marchand de Bergerac, qui s'est fait prendre sur la frontière de la Flandre en train de partir, il partait en Hollande, et c'était en 1600... pas dire de bêtises, mais autour de 1690, bon, on va retrouver ici, il est resté aux galères jusqu'en 1713, donc pas mal d'années, et il a donné un récit qui est tout à fait merveilleux, à la fois très plein d'humour, et puis très, très juste, hein, de la vie aux galères, et à la fin, il était aux galères à Dunkerque, parce qu'il n'y avait pas que dans la Méditerranée qu'il y avait des galères, on le sait peu, il y avait quelques galères sur la façade atlantique. Et en 1712, il y a eu un échange. Il était à Dunkerque, et Dunkerque a été rendu aux Anglais, et donc ils les ont redescendus à pied à Marseille, et il fait le récit aussi de son retour. Et puis, peu de temps après, il est libéré, quand est signée la paix, je crois que c'est la paix de Ryswick en 1713, entre Louis XIV et la reine d'Angleterre, et les puissances européennes alliées. La reine d'Angleterre impose la libération, demande, mais elle avait une position de force, la libération des forçats protestants, et il y a deux ou trois fois 250 ou 300 forçats qui sont libérés à cette occasion, avec interdiction de rester en France, obligation de partir à l'étranger. Tous sont partis en Suisse et après se sont redistribués entre la Suisse, l'Allemagne, la Hollande et l'Angleterre, et beaucoup... quelques-uns ont écrit des mémoires, par exemple pour Antoine Bourse, les frères Rampon ont écrit des grandes lettres copieuses et tout, qui sont très intéressantes. Mais on a également, alors dans les papiers courts à Genève, on a également toute la correspondance qui partait clandestinement des galères. C'est-à-dire, les galères, on se représente ça comme un milieu fermé, comme une prison fermée. C'est pas du tout ça. Marseille, c'est la ville des galères. Les galériens sortent. Ils sont tout l'hiver, ils sont au port. Et ils ont des petites activités salariées. Ils vont travailler, ils servent de main-d'œuvre pas chère chez les fabricants, par exemple, marseillais. Donc le matin, on leur enlève leur chaîne. Ils vont travailler, puis ils rentrent le soir, on leur remet leur chaîne. Alors il y en a quelques-uns qui essayent de s'évader, beaucoup sont repris. Mais à Marseille, il y avait des marchands protestants étrangers. Il y avait en particulier des Suisses, et une famille suisse qui s'appelle la famille Solikoff, qui faisait le lien entre ceux qui étaient en Suisse, des protestants suisses, qui aidaient les galériens, et qui envoyaient des fonds, et qui envoyaient des bibles. J'ai trouvé mention d'une bible. Il y a un de ces galériens qui était irréductible, a été envoyé, oui, alors quand les galériens, ils étaient vraiment trop mauvais pour les autorités, il y avait pire que les galères. On les envoyait au château d'If, au Fort Saint-Nicolas à Marseille, ou au château d'If, alors là, vraiment dans les cachots, etc. Et bien, au château d'If, dans le cachot, dans je ne sais plus quel cachot, il y a un galérien qui s'appelait Brun, il avait réussi à faire rentrer une Bible. Bon, il faut dire qu'il y a donc tout un jeu de complicité, d'aide, etc. Donc il y avait beaucoup de courriers qui étaient échangés, et effectivement il y a des centaines et des centaines de lettres de galériens qu'on peut retrouver, soit à Genève dans les papiers courts, soit dans d'autres archives. Par exemple, moi, j'ai trouvé un petit noblio qui était de Saint-Julien-des-Points, qui s'appelait Verned. Il avait été emprisonné à tort, hein, il avait été envoyé aux galères à tort, c'était une idée de Baville, il voyait des complots de partout, et il avait vu un complot, puis c'était pour épouvanter un peu les petits nobles, pour pas qu'ils prennent qui prenne part, pour qu'il reste tranquille. Donc il l'avait envoyé aux galères, et il a écrit à sa femme, on a retrouvé dans les papiers de famille, oui, parce que j'ai oublié, dans les archives, il y a aussi les papiers de famille, il y a aussi les archives privées, hein, qu'on peut trouver. Donc il avait envoyé à sa femme pas mal de lettres qui décrivaient sa vie. Alors c'était quelqu'un qui avait des sous, donc c'était plus facile, il mangeait bien, il sortait beaucoup, etc. Il avait réussi, me semble-t-il, à monter une petite entreprise de bonneterie à Marseille. Il faisait travailler l'autre forçat, et ça valait, et bon, il n'est pas resté très longtemps, il est resté 3 ans, je crois, mais ça avait l'air baigné. Alors les lettres tournaient beaucoup autour des démarches que faisait sa femme pour le faire libérer. En particulier, ils avaient fait intervenir un tas de prélats, ils avaient fait intervenir l'abbé Duchella, j'ai découvert, ce qui est quand même assez intéressant. Il l'avait de leur côté, et finalement, ça a marché, et il a réussi à se faire libérer. Quoi.
Puis-je en profiter pour te demander où en allait de ce projet, justement, de ces textes camisards pour l'instant
De Courte,
et tout ce qu'il avait trouvé par ailleurs.
Alors, les textes de Courte, ils sont tous frappés, mis en page, pas annotés encore, mais en cours d'annotation, au fur et à mesure, hein, si tu veux, que je trouve les trucs, je le rajoute. Pour le moment, peut-être qu'un jour, je mettrai tout sur Internet, je ne sais pas. Oui, mais alors, le problème, c'est qu'avant de faire... Le problème de la publication d'un bouquin, c'est que de toute façon, il faut y consacrer un an. Ça veut dire que je retourne à Genève, que je me remette là-dedans, que je trouve les textes complémentaires, parce que j'ai pas fini à Genève.
Tu n'auras jamais fini, de manière.
Non, mais oui, oui, non, tu as raison, j'aurais jamais fini, mais bon. Mais pour rendre quelque chose d'un peu présentable, quoi, c'est quand même. Et là, pour le moment, je suis pas là-dedans, quoi.
Qu'est-ce qui explique la chute du nombre de galériens à partir des 1710
Il y a un protestant. Après la mort de Louis XIV, il y a beaucoup moins de condamnations.
C'est moins de condamnations,
oui,
ou c'est
oui,
moins
oui.
d'assemblées du désert?
Non, c'est beaucoup plus d'assemblées du désert et c'est beaucoup moins de condamnations. D'abord parce qu'il y a une libéralisation qui est nette. Hein. Il y a un rapport de force aussi qui s'établit. Il y a des à-coups à partir de 1700. Après la mort de Louis XIV, il y a des à-coups. En 1724, je ne sais plus qui c'était, le régent ou je ne sais plus qui pique une colère pas croyable, qui dit « mais bon sang, il y a encore des protestants et tout », qui décide de faire rebaptiser ceux qui l'avaient déjà été, au mépris d'ailleurs de la religion catholique, hein, qui interdit de baptiser deux fois quelqu'un. Et à ce moment-là, les parents qui résistent et tout, on en envoie quelques-uns aux galères pour l'exemple. De temps en temps, les soldats tombent sur une assemblée. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? On n'en sait rien. Mais alors qu'avant, toute la période avant, on a une répression systématique. Alors là, on ne peut pas lever le petit doigt. Moi, j'ai été effrayé. Je le savais, pourtant j'avais lu Charles Bost, je l'avais épluché et tout. J'ai été effrayé de la répression antiprotestante entre 1685 et 1687. C'était une horreur. C'est-à-dire que non seulement pour le moindre truc de travers, on se retrouvait déporté aux îles, en prison. Le nombre de gens qui sont passés en prison, c'est pas croyable. Les amendes, c'est pas croyable. Dès qu'il y avait une assemblée quelque part, les nouveaux convertis, c'est là qu'on faisait la différence, vous voyez, entre les. Ils savaient bien la faire, la différence entre les nouveaux convertis et les anciens catholiques. Il y avait une assemblée dans un bled des Hautes-Cévennes. La paroisse où s'était tenue cette assemblée, on taxait les nouveaux convertis, on mettait une amende très très forte qui était payée uniquement par les nouveaux convertis. Donc on faisait bien la différence. Hein. Et en plus des impôts normaux, entre guillemets, hein, en plus de... c'est les années où Baville a fait construire les routes royales. Ça encore, c'était payé uniquement par les nouveaux convertis. La citadelle de Fort Vauban, là à côté, qui a été construit à cette époque, en même temps que celui de Nîmes et que celui de Saint-Hippolyte, offrait des nouveaux convertis, hein, que ce soit en journée de travail ou en argent. les enfants qui n'allaient pas au catéchisme, paf, amende. Et puis, le tout cumulé, mais ça fait des sommes. À la bibliothèque de la Société d'histoire du protestantisme, il y a des choses très intéressantes, des comptes de consuls, c'est-à-dire des maires de l'époque, de plusieurs paroisses, des Hautes-Cévennes, essentiellement Saint-André-de-Lancise. Et là, on peut voir, au jour le jour, toutes les amendes. Oui, j'ai oublié, à chaque fois qu'il y avait une assemblée ou qu'il y avait quelque chose, on mettait les soldats. On les mettait en ce qu'on appelait en pure perte. Ça dit bien ce que c'est. C'est-à-dire qu'il fallait les entretenir, les loger, les nourrir, etc. Tout ça, encore une fois, uniquement aux frais des nouveaux convertis. Et alors là, les communautés sont obligées de s'endetter, les individus sont obligés de s'endetter, etc. C'est la misère noire, à tel point que, après la grosse série d'assemblées de 1687, de l'hiver 1686-1687, entre parenthèses, il y avait eu de très mauvaises années agricoles, donc, qui enfonçaient encore un peu plus les gens. Baville avait décidé de loger dans toutes les Hautes-Cévennes, de loger tous les soldats possibles et imaginables dans toutes les paroisses des Hautes-Cévennes et du Bas-Languedoc. Parce que l'hiver, les soldats faisaient, je crois que j'ai déjà dit, ils ne faisaient pas la guerre, mais ils mangeaient. Donc ça résolvait, là encore une fois, ça résolvait deux problèmes. Ça foutait la trouille et ça faisait tenir tranquille les protestants des Cévennes, et en même temps, ça permettait aux soldats de manger. Donc c'était tout bénéfice. Donc il y avait à cette occasion-là, il y avait ils ont été décrétés de logements de pure perte pour tout l'hiver. Et c'est Baville, en mars, qui arrête le logement en pure perte, parce qu'il dit les communautés, elles ne vont pas s'en remettre. Il avait peur que les gens ne cultivent plus, qu'ils se laissent, qu'ils crèvent, quoi, tout bêtement. Parce que, alors en même temps, c'était toujours un peu c'était un bon gestionnaire, c'était toujours un peu sa position entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il fallait pressurer et forcer tant qu'on pouvait les protestants, mais en même temps, c'est eux qui rapportaient du fric, c'est eux qui payaient des impôts, et des impôts lourds, donc il ne fallait pas les mettre hors d'état de payer ces impôts. Donc il était toujours entre deux. Mais tout ça pour dire que moi je suis étonné de la capacité de résistance à tout ce rouleau. Pour moi, c'est un rouleau compresseur sur les populations. Et il ne faut pas s'étonner si quelques années plus tard, on a la guerre des Camisards, en 1702, c'est peu de temps après, et ben c'est que les jeunes se sont dit, mais comment nos parents ont pu supporter ça, tout sauf continuer à supporter non seulement le manque de liberté, mais l'oppression, quoi qu'on fasse, ils dégustaient, ou alors il fallait se mettre pieds et poings liés et se mettre dénoncer, etc. Il n'y a que ceux qui franchissaient carrément le pas, qui passaient du côté du pouvoir, et ils étaient très peu nombreux. Bon, ceux-là, ils s'en sortaient très bien, puisqu'en général, ils prenaient les dépouilles de ceux qui étaient emprisonnés. Il n'y a que ceux-là qui arrivaient à échapper. Tout le reste, il n'y a pas une famille protestante qui n'avait pas des morts, des emprisonnés, etc. Moi, je vois vraiment la révolte des Camisards, je la vois comme la dernière solution, quoi. Dernier recours, plutôt mourir debout, mourir en combattant que vivre à genoux. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Si en 1713 ou 15, il y a encore des assemblées plus nombreuses qui se constituent, d'où venaient ces personnes ?
C'était toujours les nouveaux convertis, mais à partir de 1715, alors qu'avant, il y avait les prédicants. Dans toute la période 1604, pour encadrer les assemblées.
On parle un peu de prédicants,
voilà. Si vous pouvez expliquer. Oui, alors le prédicant, c'était la plupart du temps, c'était des gens du peuple, qui n'avaient pas forcément plus d'instruction que les autres. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas lire, pas écrire. Mais, à cette époque-là, on apprenait la Bible par cœur. Et il y a un certain nombre de gens qui avaient pris le maquis pour pas abjurer, ou qui avaient abjuré, mais qui s'étaient repentis. Et puis, petit à petit, qui s'étaient mis à faire la prière, et tout. Et quelques-uns de ces gens-là soit était plus doué que les autres, il y avait d'excellents orateurs en particulier, même illettrés, soit avait une petite culture protestante, ou était soit maître d'école, régent d'école, ou certains avaient fait des études de proposants, donc pour être pasteur, et tout. Bon, ça a fait un encadrement, mais encadrement très fugitif, parce que on n'en connaît pas beaucoup qui ont réussi à rester vivants au-delà de 2 ou 3 ans. Il y a quelques exemples fameux, comme Roman. Roman, c'est un personnage, c'est un prédicant merveilleux, qui venait de la Drôme, qui était colporteur, on l'appelait le paquet de tout, parce qu'il vendait ce qui trimbalait sur son dos, ce qui était très commode quand les prédicants, parce que comme ça, il avait un alibi pour passer d'un coin à l'autre, etc. Et il tenait des assemblées et tout, il a fait un travail tout à fait extraordinaire. Il s'est évadé 2 fois de prison. La première fois, les 2 fois, il aurait été exécuté. La première fois, c'était à Saint-Jean-du-Gard, où il avait la chance... Il y avait Baville dans le château de Saint-Jean-du-Gard, il y avait Baville ce soir-là, il y avait tous les militaires, tous les chefs militaires et tout, et il y avait la fille du pasteur Guichard, qui était servante du sieur de Montvaillant, je crois, ou de Vignol, d'un des petits nobles du coin, et qui, dans le château où logeait Baville, etc., et où était en prison ce fameux Roman. Et la fille, elle était servante, et elle s'est approchée de la cellule de Roman, et ont commencé à parler, elle lui a décrit les lieux, etc. Je crois qu'elle lui a fait passer un outil et tout. Bon, bref, il s'est sauvé. Et elle a été fustigée, envoyée à la tour de Constance pendant 5 ans, mais elle devait être très soutenue parce qu'elle a été libérée sur demande spéciale de la reine d'Angleterre avant la paix dont je vous parlais. Elle a été libérée après 5 ans de taux de Constance. Ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, il a été pris à côté de Lédignan. Bouquaran, voilà. Il a été pris à Bouquaran. Et c'était le jour de la Saint-Laurent. Il y avait la foire à Lédignan, la foire de la Saint-Laurent, 10 août. Et les protestants, quand ils ont su qu'il était pris... Il y a une petite équipe qui s'est... Alors là, c'était en 1701, 1700, si je ne me trompe pas. C'est à vérifier. Donc, peu de temps avant la guerre des Camisards. Et pour moi, c'est un épisode très Camisard. Hein. Les jeunes se sont rassemblés, ils se sont armés, ils ont marché sur la prison où était... sur l'auberge où était Roman sous la garde d'Archer. Ils les ont investis, ils ont tué un archer, ils l'ont libéré, et ils l'ont embarqué, et il s'est retrouvé en Suisse, un mois après, libre. Là, d'ailleurs, on a ses mémoires, un petit bouquin, mais pas très bien rédigé, il y a plus passionnant que ça, qui a été publié quelques années après. Quoi. Alors, bon, voilà le prédicant, donc voilà ce genre de personne que c'était, mais surtout, ce qui est frappant, c'est le peu de durée dans le temps. Hein. Il fallait que ça tournait sans arrêt. Bon, il y en avait de moins en moins. Hein. Autant dans les années 1696, 1697, il y en avait pas mal. Autant après 1700, il n'y en a plus du tout. Et c'est à ce moment-là que se manifeste ce qu'on a appelé le prophétisme. Il n'y avait plus les prédicants, et tout le monde est devenu prophète, tout le monde avait le Saint-Esprit qui parlait, parlait au nom du Saint-Esprit, etc. Bon, et ça aussi, ça a été très important pour le déclenchement de la guerre des Camisards, voilà, c'est le phénomène prophétique. Alors qu'en 1715, quelques individus, des anciens Camisards, Bonbonou en particulier, dont vous avez les merveilleux mémoires, réédité par Max Chalet, évidemment, incontournable. Si vous voulez lire quelque chose sur les Camisards, hein, c'est les récits Camisards de Mazel, Marion et Bonbonou. Lisez qu'une chose sur les Camisards, si vous lisez qu'une chose sur les Camisards, il faut que ce soit ça, parce que c'est rare hein, que des gens... Bonbonou, il a appris à écrire à 30 ans, justement, dans la période dont je vais parler. Mazel, pareil. Marion, lui, est un fils de bourgeois de par des Cévennes, donc lui, il savait lire et écrire. Bref, ces Camisards rescapés, disons, qui sont toujours restés, et Cortés, le dernier, c'était Cortés de Vianas, qui était toujours resté, mais qui avait plus qu'une audience très minime. Hein. Il se planquait, bon, il essayait de survivre. Il réunissait plutôt les gens chez eux. Il faisait des petits cultes privés chez les gens, etc. Et un individu qui s'appelait Antoine Courte, dont j'ai déjà parlé, qui est un Ardéchois du Sud, qui est de Villeneuve-de-Berge, qui lui avait une formation, il savait lire et écrire, etc. Antoine Courte et ses camisards ont réorganisé l'église clandestinement, se sont réunis en synode, ils étaient gonflés parce qu'ils étaient une poignée, hein. Ils se sont réunis en synode et ils ont commencé un travail de fourmi, aller dans tous les lieux où il y avait auparavant des protestants et puis commencer clandestinement à faire nommer des anciens. Ils ont refait une église comme elle était avant 1685, ce que n'avaient jamais pu faire les prédicants avant. Et petit à petit, ces églises se sont organisées, se sont réunies en synodes clandestins régulièrement. Après, ça a essaimé sur le Vivarais, donc l'Ardèche, sur le Haut-Languedoc. Et progressivement, ça s'est étoffé comme ça. Et après, Antoine Courte est parti en Suisse, je crois que c'était en 1724. Et là, en Suisse, il a obtenu des soutiens et de l'argent pour monter un séminaire de formation des pasteurs à Lausanne. Et les jeunes qui étaient repérés sur le terrain comme assez doués et surtout ayant étant très motivés, ayant une très forte foi, étaient envoyés aux frais essentiellement des églises locales à Lausanne pendant 2 ans pour apprendre les rudiments pour pouvoir faire fonction de pasteur. Ce séminaire, on l'a appelé l'école des martyrs. Il a été appelé parce que beaucoup de ceux qui sont passés par ce séminaire, ben quand ils étaient pris, de toute façon, ils étaient exécutés, hein, la plupart du temps. Donc, ils savaient, quand ils commençaient ça, ils savaient que, normalement, il ne ferait pas de vieux os. En fait, il y en a eu d'exécutés, hein, des pasteurs, il y en a eu au moins 10 C'est pas énorme sur les 150, sur la période qui est assez longue, sur les 150 ou 200 pasteurs qui ont officié, bon, beaucoup quand même ont échappé. Et pourquoi ils ont échappé? D'abord parce qu'ils étaient beaucoup plus prudents, ils avaient des consignes de prudence et tout, on leur apprenait à être prudents, et surtout parce que les communautés s'étaient reformées, les vendeurs de chrétiens, les traîtres éventuels, ben, on les mettait bien de côté, surtout qu'ils ne soient pas informés qu'il devait y avoir une assemblée, etc. Bon, beaucoup de précautions étaient prises pour que les assemblées soient beaucoup moins surprises. Ça, pendant la première période. Après, il y a toute une période où, dans beaucoup de régions, où il y a quasiment une vraie tolérance. Hein. Dans les années 1750, dans le Bas-Languedoc, là, même des catholiques vont à l'assemblée, ils s'en vantent, ils trouvent ça intéressant et tout. Il y a des récits par des catholiques d'assemblées protestantes qui sont tout à fait œcuméniques, hein. C'est avant l'heure. Donc voilà, je pense, la différence des deux périodes. Et alors, petit à petit, donc, les pasteurs prennent de l'assurance, les églises clandestines prennent de l'assurance, et alors que pendant toute une période, vous savez qu'il y a un des gros problèmes de la résistance à la religion catholique, un des gros problèmes, ça a été que, l'État n'étant pas laïque, c'est les curés qui tenaient les registres de baptême, et que si vous n'étiez pas baptisé, vous n'aviez pas d'existence légale. S'il n'y a pas d'État civil autre que celui des curés. Pas d'existence légale, ça veut dire pas pouvoir hériter de votre famille, vous êtes considéré comme non-existant. Donc, pendant très longtemps, les nouveaux convertis faisaient baptiser, d'abord se mariaient à l'Église, même s'ils ne croyaient pas, hein, ils étaient parfaitement hypocrite, mais enfin c'était ça, on voit pas bien comment ils pouvaient. Il y a une question de rapport de force, hein, c'était pas évident. Et puis ils faisaient baptiser catholiques leurs enfants. Et puis petit à petit la religion protestante s'est affirmée et les pasteurs ont dit non, attention, c'est du nicodémisme. Si vous avez réellement la foi, eh ben, vous refusez de faire baptiser votre enfant à l'église catholique et on le baptise au désert. Et les pasteurs, c'était des pasteurs itinérants, hein, contrairement aux curés qui étaient dans une paroisse donnée, là c'était des pasteurs itinérants. Par exemple, le jour où il était à Vialas, eh ben, toutes les paroisses autour, les gens amenaient leurs enfants à baptiser, les mariages se faisaient, etc. Et il avait un registre où il mettait tout ça. On en a une partie de ces registres qui est conservée aux archives et qu'on peut analyser, qui est très intéressante. Mais ça s'est fait progressivement et quand même pas avant 1745, hein, le passage de l'un à l'autre. Alors, il prenait quand même la précaution, il baptisait les enfants au désert et tout, mais il faisait des actes devant notaire. Hein, au cas où il y ait contestation après, par la suite, il déclarait les enfants devant notaire, quoi, pour bien indiquer la filiation au cas où. Et les mariages aussi.
Est-ce que le livre Le Théâtre Sacré des Cévennes constitue une archive ?
Oui, tout à fait. C'est une source tout à fait intéressante et au niveau de l'ambiance sur le prophétisme et tout ça, c'est un des rares documents authentiques. Hein. C'est un des documents les plus authentiques et moi je trouve les plus émouvants hein, de la période. Oui, tout à fait. Alors c'est aussi un livre qu'a réédité Max. De toute façon, il a tout réédité. Tout ce qui est Camisard, il a quasiment tout réédité.
C'est le premier que j'ai réédité.
C'est le premier que vous avez réédité.
C'est le deuxième livre que j'ai publié.
Tout à fait. Si, il y a aussi, il y a eu un concurrent passé un temps de Max, c'était les éditions La Cour à Nîmes, mais c'est pas très comparable d'abord par la qualité de l'édition d'abord. Et deuxièmement, parce qu'il se contentait de faire des reproductions, il prenait les photos de l'ensemble, alors que la plupart de ce qu'a réédité Max, c'était avec des notes, avec des textes explicatifs, etc. C'est quand même bien plus sérieux, quoi. On pourrait dire ce qu'il n'a pas édité, d'ailleurs.
Mais il n'y en a pas beaucoup.
Non, mais dans les grands textes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Bruès. Mais c'est pas... Ouais. Oh. Oui.
Quelles sont les répercussions que le fait que les Camisards et les Camisards ont pu avoir sur la répression, et en particulier aussi sur les motifs de condamnation?
Alors, sur la répression, à long terme, moi j'y dirais, avant de réprimer aussi durement les protestants, le pouvoir y a regardé à deux fois. C'est-à-dire qu'ils ont toujours eu dans la tête attention à ne pas créer les conditions à une nouvelle révolte comparable à celle des Camisards. Parce que ça avait coûté extrêmement cher. En argent, oui, je ne l'ai pas dit, hein, mais vous le savez, les Cévennes, les Hautes-Cévennes ont été brûlées. Hein, tout ça, c'est un manque à gagner. Les Hautes-Cévennes demandent, plus quelques paroisses comme Saint-Paul-Lacoste, Souxtel, etc., ont été exemptées d'impôts pendant 30 ans, jusqu'en 1730. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas les payer les impôts, qu'il fallait reconstruire les maisons, qu'il fallait remettre en état les terres, etc. Parce que sinon, c'était une zone morte. Hein. Donc, sur le plan économique et sur le plan humain, parce que on peut difficilement chiffrer, mais ça se chiffre certainement en un pourcentage de la population et de la partie jeune de la population très important. Hein. C'est peut-être de l'ordre, c'est plusieurs milliers de morts, hein, de toute façon, sans doute. Sans doute une dizaine, je crois que Baville avait dit à un moment, 18 000, de mémoire, peut-être je me trompe, mais il me semble que c'était en tout, des deux côtés, hein, victimes civiles, victimes militaires, catholiques, protestants, je crois que c'était plus de 10 000 morts. C'est quand même lourd sur 100 000 personnes, hein, par région. Ça fait quand même 10%. Bon, Alors je pense que... Comment ?
Des jeunes,
bien sûr. Oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça, avec en plus les dégâts matériels. Hein, parce que là, bon, la majorité des maisons, et alors attention, pas seulement de ce qui a été brûlé en Haute-Cévenne, parce qu'on ne parle que de ça, on pense qu'à ça, mais il y a eu un deuxième brûlement des Basses-Cévennes un peu plus tard, il y a eu les enlèvements de tout un tas de communes, on parle de ceux de Mialet, Saumane, mais il y a eu dans la Gardenin, il y a eu énormément il y a eu une trentaine de communes où on a pris la population et où on l'a déportée, et alors plus en Amérique cette fois, mais essentiellement à Perpignan. Il y avait 1000 prisonniers à Perpignan. À Carcassonne, il y avait 1 000 000 de prisonnières. C'est fou, quoi, comme proportion. Là, c'est une répression assez dingue sur le plan quantitatif. Et même dans la plaine, là, dans la région de Saint-Maurice-de-Cazevieille, Saint-Jean-de-Sierra, tout ça, il y a eu des zones interdites où on a regroupé, exactement comme dans la Haute-Cévennes, on a regroupé les gens dans les principales villes, en leur interdisant de retourner sur leurs terres, etc. Alors là, on n'a pas brûlé les maisons. La seule différence par rapport aux Hauts-de-Cévennes, elle est là. Enfin, disons que il y a eu des conséquences humaines et économiques très, très lourdes. Alors donc, il s'agissait de ne pas refaire la même erreur. Quoi. Et moi, je pense que on a quelque chose de très significatif. En 1750, autour de 1750, il court le bruit parce qu'il y avait un pasteur qui était un peu un pasteur bout de feu, qui poussait à la révolte, qui s'appelait le pasteur Gibert. J'en parlerai volontiers parce qu'il est de Saint-Martin-de-Boubou, alors il est du Lunès, et c'est un personnage extraordinaire, puisqu'il a fini sa carrière en partant en Angleterre, en emmenant 400 personnes. Alors pas trop de Cévennes, quelques-uns de Cévennes, mais pas trop parce que ça marchait pas bien, mais surtout de la région bordelaise et de la Saintonge, les a emmenés en Angleterre et de l'Angleterre en Amérique. Et en Amérique, ils ont été fondés une colonie, la colonie de New Bordeaux, avec des immenses terres, avec une colonie religieuse, quoi, qui a duré quelques années. Intéressant, c'est une expérience tout à fait intéressante. Bon, bref, ce Gibert était dans le coin et il commence à ameuter un peu. Et puis il y avait un autre pasteur, ces jeunes pasteurs formés au séminaire de Lausanne, qui s'appelait Coste et qui était dans la région de Nerre, autour de Nerre, Lascaux, etc. Ils avaient cette zone-là. Et un jour, ils croisent le curé de Nerre qui s'appelait Loisel. Il s'appelait, ouais, je me rappelle parce qu'il avait déjà eu, des problèmes, il avait déjà trouvé des oiseaux sur sa porte, transpercés d'une pique. C'était des menaces à peine voilées. Bon, bref, le Coste, il le trouve sur la route, je ne sais pas ce qu'ils se disent, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il lui tire un coup de pistolet dessus et il le blesse grièvement. Et puis, deux jours après, il y a un autre prêtre un peu plus loin qui est attaqué, etc. Et le bruit se met à courir, que ça y est, il y a des camisards qui descendent des Hauts-de-Cévennes pour attaquer les curés, quoi. Et ça fait une histoire pas croyable. Et c'est là qu'on voit, en lisant les lettres des responsables et tout, c'est là qu'on voit qu'ils ont vraiment la trouille et qu'ils disent, bon, ben, on va essayer de calmer les choses et tout. Et ils arrivent à parler avec des gens. Il y a toujours de ces gens qui connaissent les deux parties. Bon, ils arrivent à trouver des gens qui calment le jeu. Le pauvre Coste, en fait, il a été envoyé après clandestinement, parce qu'il était recherché. Il a été envoyé en Irlande, où il est devenu fou. Hein. Je pense qu'il y avait peut-être déjà quelque chose qui travaillait déjà, à moins que ce soit cette affaire-là, qu'il est rendu fou. Hein. C'est possible aussi. Et alors, il y a un mot que je n'hésite pas à vous dire aussi, que bon, Baville, c'était le fonctionnaire, le haut fonctionnaire type, je ne sais pas à qui on pourrait le comparer, mais autoritaire et tout, imbu du sens de... Vraiment, c'était un personnage. Hein. Il y a eu un livre d'ailleurs qui a été écrit par feu le préfet Poujol sur Baville, qui est tout à fait intéressant. Et en 1715, il reçoit une plainte d'un de ses subdélégués. Les subdélégués, c'était... Bon, Baville, ça aurait été un super préfet, si vous voulez. Les subdélégués, c'était les préfets de département. Hein. Et qui lui dit, il y a dans tel village, suite à l'affaire de Romans, donc vous voyez, ça remonte... 15 ans, plus de 15 ans avant, il y a des gens qui avaient été condamnés à une amende, et il dit, ces gens-là, ils avaient dit qu'ils paieraient, ils ont payé un peu, et ils doivent encore de l'argent, et tout. Et là, Baville, qui pourtant était brut et tout, il a ce mot que je trouve quand même extraordinaire, au bout de tout ce temps, on peut quand même laisser tranquille ces pauvres gens. C'est la seule parole d'humanité que j'ai trouvé dans tous les écrits. Baville, il a écrit énormément, il signe le nombre de signatures. Quand vous vendez des autographes de Baville, on vous les vend très cher, mais alors j'ai jamais vu autant de signatures d'un même bonhomme. Il signait tous les papiers, il devait avoir des paraphores, il devait être sans arrêt en train de faire autre chose, parce que, mais il signait un nombre colossal de documents. Hein. Et il a quand même eu cette parole, qu'on laisse tranquille ces pauvres gens après tant de temps. J'ai trouvé ça, c'était assez significatif. Quoi.
Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions.
Je me demandais, les militaires qui étaient envoyés pour rechercher tous ces protestants qui se cachaient, au bout de quelques années de confronter à ces protestants en fuite, tout ça, il n'y en a pas quelques-uns de moment qui baissaient les bras ou qui devenaient protestants.
Mais il y en a qui désertaient. Pendant la guerre des Camisards, il y a des militaires qui ont déserté et qui sont allés chez les Camisards. Il y a des catholiques qui sont allés chez les Camisards. Alors ça, c'est les Mitterrand et Baville, vraiment, dans les listes de gens suspects, etc., que j'avais trouvé aux affaires étrangères, il y a par exemple un à Saint-Martin de Boubou qui s'appelait Cousy, qui était tailleur, et il est signalé, bien que catholique, encore plus mauvais que les autres. C'est vraiment... Bon, on a l'exemple d'un... On a beaucoup de militaires qui se marient sur place. Par exemple, au pont de Montvert, le père... Il y a un pasteur du pont de Montvert qui s'appelle Viala. Et son père était soldat... Alors, au pont de Montvert, les soldats, c'était ce qu'on appelait les Miquelets, c'est-à-dire ils venaient du Roussillon, c'était des catholiques du Roussillon, et des gens un peu rustiques, des troupes très légères, pillards, etc. Et bien, il y a un de ces Miquelets qui a épousé une jeune femme du pont de Montvert, et leur enfant est devenu pasteur. Bon, lui, je ne sais pas s'il est resté après ou s'ils sont allés ailleurs, mais en tout cas, les origines de ce Viala sont bien connues, et c'est un fils de militaire. C'est pas rare de voir des mariages et de gens qui finissent par s'intégrer, hein, oui, tout à fait. Enfin, c'est pas rare, il y en a. C'est pas la majorité, parce que les militaires, ça tournait, hein, quand même.
Pas parce que justement, je disais, est-ce que ça posait des problèmes au sein de l'armée, justement, que de moment les gens vont se lasser ou ont envie de...
Je crois que l'armée, au sein de l'armée, c'est le problème dans la lutte contre les Camisards, c'était pas tellement ça qu'une espèce de force d'inertie qui faisait que l'armée n'était pas agressive. Hein. Et que quand ils pouvaient se défiler, il y a le nombre d'histoires, le nombre de fois où ils y vont mollement, et ils se font engueuler pour ça, c'était pas agressif. Il y a même, alors ça c'est un peu post-Camisard, puisque c'est dans le Vivarais, la révolte de Mazel de 1709, c'est la dernière révolte Camisard, et à ce moment-là, ils attaquent les soldats, il y a un régiment suisse que les Camisards avaient travaillé psychologiquement, ils avaient fait des tracts qu'on a retrouvés, Mazel avait fait un écrit disant qu'ils n'en voulaient pas aux catholiques, mais que c'était uniquement les curés, les prêtres, etc., et qu'ils n'avaient rien à craindre. Et ils avaient dû travailler dans le régiment suisse, et à tel point que l'ordre est donné chez les Camisards de viser, de tirer sur les officiers. Hein, les officiers se font descendre, et les Suisses mettent la crosse en l'air, hein, de tout le régiment. Et ça, alors là, le colonel du régiment suisse de Courtaine, quand il voit ça, c'est la honte, parce que les Suisses, c'était des mercenaires, hein. C'était leur métier depuis très longtemps. Oui.
C'était des protestants.
Sans doute.
Mais oui, ils avaient même leur pasteur. En pleine guerre des Camisards, les Suisses ont leur propre.
Oui, mais pas là, c'est en 1709, ils n'ont pas de pasteur, là. Mais ils sont peut-être protestants, peut-être. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on les tire au sort, et j'en trouve trois aux galères. Que on n'y avait pas vu, mais il y en a trois qui sont aux galères, et peut-être des exécutés. Ça, on ne sait pas. Je n'ai pas trouvé la trace. Ça ne serait pas impossible. Et donc là, c'est tout un régiment. Enfin, il devait y avoir deux ou trois compagnies, c'est-à-dire 200 hommes, qui refusent de se battre, carrément. Alors que pendant la guerre des Camisards, c'était plutôt larvé, quoi. C'était plutôt se faire tout petit, et puis bon, essayer de ne pas trop ramasser.
Y a-t-il aussi des gens partis aux galères non protestants et revenus protestants ?
Oui, oui. Il y a ce qu'on appelle des, comment, ils avaient un nom. Oh zut.
C'est pas pour ça, bien, c'est...
Non, lui, il était protestant. Oui, lui était protestant. Non, il y a un certain. Il y en a. Oui, il y a même des truands, même le truand qui se convertit et qui devient bon, quoi. Hein, c'est, comment on appelle ça? Comment on appelle Max? C'est pas l'apostat, c'est le nom de celui qui est. Ça me reviendra. Le nom de celui qui devient. Qui change de religion pour la religion protestante. Mais il y en a, oui. Alors, il y avait un truc extraordinaire. Je vais vous dire un truc extraordinaire. Il y avait un curé sur les galères qui s'appelait Bion. Ce curé Bion, ce qu'il a vu sur les galères, parce que là, les protestants, il y a eu toute une période où ils ont été très réprimés, à savoir que s'ils refusaient d'enlever le chapeau, il y avait la Sainte Messe une fois par semaine ou tous les jours, je ne sais rien. Il y avait un curé par galère, hein. Et ils faisaient la messe, et les galériens devaient enlever leur bonnet. Et ils refusaient d'enlever le bonnet en disant nous ne nous découvrons que devant Dieu. Et donc on les mettait, la répression, la punition, c'était de les mettre à l'avant et puis de les faire fouetter. Heureusement, c'était souvent des Turcs qui les. Parce qu'il y avait aussi des galériens turcs, hein, qui étaient pris sur les bateaux. Sur la Méditerranée, c'était souvent les Turcs, et les Turcs respectaient beaucoup les protestants parce qu'ils vivaient leur foi. Comme eux, Turcs, vivaient leur foi, donc ils tapaient le moins fort possible. Enfin, bon, quand même, quand vous recevez 50 coups de corde mouillée. L'abbé Bion a été témoin de ça. Ça l'a tellement révolté qu'il est parti en Angleterre et il s'est fait pasteur. Il a écrit ses mémoires, là, encore une fois, il a écrit ses mémoires, oui, qui n'ont pas été rééditées.
Ils n'ont pas été rééditées. Donc, Martel, qui a été réédité au Mercure de France.
Martel aussi, oui, tout à fait. Tout à fait.
Et des historiens qui se prennent ici.
Bon, peut-être. C'est pas le seul prêtre d'ailleurs à s'être converti, il y en avait un autre, mais pas aux galères, un de ceux qui a assisté les premiers qui ont été exécutés en Haute-Cévennes à La Salle, il me semble, et qui s'appelait l'abbé Aiguisier. Ben pareil, lui, il est parti en Suisse après et il est devenu pasteur. Souvent les prédicants exécutés avaient une mort tout à fait édifiante et remarquable. Ils étaient heureux, hein. Ils allaient rejoindre Dieu, etc. Il y a des textes, hein, qui disent ça. Et les assistants catholiques, ça les remue quand même. Il y en a un qui dit si leur foi, si leur Dieu est le vrai Dieu, mal parti, quoi. En gros, c'était ça. Tu te rappelleras, tu diras mieux que moi, mais en gros, c'était le sens, quoi.
C'est d'ailleurs Villard qui anime quand on roule les camisards. Il dit ce spectacle de les voir mourir avec tant d'opiniâtreté, oui. Parfois, il dit c'est un mauvais exemple à dans les
rues. Oui.
Il dit c'est pas bon de faire ça.
Et puis ils faisaient battre le tambour pour pas qu'on entende les prières des gars, il fallait pas qu'on les entende. Même les plus fanatiques, Castanet, il a repoussé le prêtre qui venait avec sa croix. Ôtez-vous de là, sauterelle de l'enfer.
Retire-toi,
sauterelle de l'enfer.
C'est la
Sauterelle de l'abîme. Sauterelle de l'abîme, tout à fait.
Et sur Pierre Durand, il n'y a plus rien d'édité, il est épuisé. La seule biographie. Galonnet a fait sur la famille Durand.
Ah oui, c'est la famille, oui, Fabre. Enfin,
Marie Durand, mais il est épuisé aussi.
Oui, ça se peut. Oh, mais il a été plusieurs fois réédité. Ça se pourrait qu'il soit encore réédité, non? C'était pas la cause qui l'a.
La cause avait fait, mais il est épuisé. Écoutez, on vous remercie pour votre
passage.
Vous avez à votre disposition les cartes, Pierre Rolland est encore disponible.
position. Et puis vous pouvez aussi passer à côté pour rafraîchir.
Ça aussi.
Merci et bonne soirée.